des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillée dès le mardi 9 avril.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Hier soir au souper, mon mari et moi, on a eu une grande discussion avec mon fils de 13 ans au sujet des relations de la police avec les différentes communautés. Et mon fils, qui a seulement 13 ans, était très rapide à condamner les policiers qui sont trop vite sur la gâchette. Et moi et mon mari, on disait à notre fils de 13 ans, ben on va peut-être attendre les résultats d'une enquête en bonne et due forme avant de poser un diagnostic, avant de déclarer les gens coupables. Ben, des fois, je regarde la société au grand complet, puis j'ai l'impression que la société au grand complet est un enfant de 13 ans à qui il faut expliquer des choses de base. C'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui avec mon ami et collègue Joseph Facal. Bonjour, Joseph.
Bonjour, Sophie.
Qu'un enfant de 13 ans, de façon péremptoire, décide telle personne est coupable, telle autre est innocente, c'est une chose. Mais quand on lit dans un journal comme Le Devoir des gens déclarer de façon péremptoire que la police est forcément à la défense d'un système patriarcal, c'est un petit peu enfantin.
Oui, si on veut, mais le propre du discours idéologique, c'est qu'il carbure évidemment à la simplification outrancière qui, effectivement, des fois, prend des allures de retour à l'enfance. En fait, quand tu nommes Le Devoir, je crois que tu faisais référence très précisément à un article paru, je crois, avant-hier, dans lequel une dame disait que, par essence, par fonction, la police doit être, et je cite, « raciste, patriarcale, capacitiste, homophobe et transphobe ». Et derrière, évidemment, ce galimatia, il y a un simplisme, oui, qui équivaut souvent à celui d'un enfant de 13 ans. C'est fou comme on peut utiliser le jargon pour dire des conneries.
Oui, alors parce que je continue, donc cette dame qui s'appelle Mariam Kaba et que tu cites dans ton excellente chronique de ce matin, elle dit « perpétuer un État capitaliste, suprémaciste blanc ». Et si cet hétéro-patriarcal implique de cibler, contrôler, contenir certains groupes. Donc là, j'avoue que moi, je veux bien être ouvert, là, être ouverte, puis tu sais, me coltiner à toutes sortes de nouveaux vocabulaires. Mais j'avoue que le si cet hétéro-patriarcal, c'était la première fois que je l'entendais. J'ai même encore de la difficulté à le prononcer. Alors, on va le décortiquer ensemble. Cis, donc comme cisgenre. Hétéro, donc hétéro-normatif. Là, on reproche à la société de n'en avoir que pour les hétérosexuels et de brimer les homosexuels, et patriarcal, ben, ça se passe de définition. Donc, on met tout ça dans le même paquet. Et évidemment, la police est coupable de ça parce que c'est bien connu, dans la police, il n'y a que des hommes blancs hétérosexuels.
Écoute, Sophie, tu faisais référence il y a un instant à ton fils de 13 ans. Je dois t'avouer, bien honnêtement, que le wokisme nous impose un nouveau vocabulaire qui a nécessité que moi, je demande à mon fils de 23 ans, peux-tu s'il te plaît m'expliquer que veut dire tel ou tel mot? Et moi-même, je me fais mettre au courant de ces nouveaux développements idéologico-linguistiques. Mais évidemment, derrière l'écran de fumée, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de militants, la police est, quoi qu'elle fasse, toujours coupable. En fait, ces gens, à chaque tragédie, n'ont pas besoin d'une enquête. Ils savent toujours. Et là, évidemment, ils puisent dans un bagage connu d'avance, privilèges blancs, profilage, racisme, surréaction, indifférence, que sais-je. Et en fait, ces gens ne se sont jamais demandé une minute. Qu'est-ce que c'est la vie quotidienne d'un policier? Ils sont évidemment totalement aveugles au fait que non, les policiers ne sont pas tous blancs, il y en a de toutes les couleurs. Et bien entendu, y a-t-il des policiers racistes? Oui, comme il y a des pâtissiers racistes, des plombiers racistes et des professeurs racistes. Mais dire évidemment que toute l'institution est intrinsèquement de A à Z raciste, ben c'est tout simplement ridicule. Sauf que veux-tu, Sophie? Nous vivons à une époque où, si le ridicule tuait, il y aurait une hécatombe. Mais on y survit. Et on peut même faire de belles carrières. Et on peut même obtenir des doctorats en ridiculologie de nos jours.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que penchons-nous deux secondes, hein, même si c'est pas relié, c'est un petit peu relié quand même, à cette affaire récente, Monsieur Camara qui avait été faussement accusé de s'en être pris à un policier. Ben le policier en question s'appelait et s'appelle encore Sanjay Vig, donc certainement pas un tremblé de souche, et ça avait posé toutes sortes de dilemmes à nos petits amis woke et à nos petits lapins offensés, parce que on avait là un cas où les policiers s'étaient montrés solidaires parce que un des leurs avait été attaqué, et donc on était plus du tout dans le narratif des vilains policiers blancs qui s'en prennent à un membre des minorités, parce que précisément le policier à la défense duquel ils se sont portés n'était pas un policier blanc de oui. souche. Alors là, ils étaient tout perdus, mes petits woke, là, bou 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 bou, ils savaient plus quoi dire, parce que ils étaient tout mélangés, ça marchait plus dans leur narratif, là.
Mais évidemment, le problème, c'est que au-delà de ces niaiseries idéologiques, il y a évidemment des conséquences réelles. Alors évidemment, c'est pas comme si la police, évidemment, restait indifférente. Non, maintenant, il y a des caméras. Tu vois, lors de l'incident survenu l'autre jour à Minneapolis, Dante Wright, la policière, portait effectivement une caméra. Ensuite, évidemment, c'est ce nouveau débat pas seulement autour de Valérie Plante, mais un petit peu partout sur enlever les armes. Après ça, il y a le débat sur définancer la police, autrement dit, lui enlever ses budgets. Ça fait évidemment des décennies qu'on a pris le virage de la police communautaire, mais ce n'est jamais assez. Quand tu oublies, évidemment, que la job principale de la police, c'est de protéger les innocents. Et encore une fois, je l'ai écrit encore ce matin, dans beaucoup de ces quartiers chauds, il y a une majorité silencieuse qu'on n'interview jamais, qui, elle, en a assez des gangs de rue, et qui, elle, se dit, plus la police est critiquée, moins elle ose intervenir, plus ça livre aux mains de ces petits voyous des familles ordinaires qui veulent simplement élever leurs enfants et aller travailler. Et je soupçonne que si on faisait une enquête allant au-delà de ces leaders communautaires autoproclamés et souvent démagogiques, on trouverait en fait des pères et des mères qui se soucient de leurs enfants et qui savent qui sont leurs vrais alliés.
Et c'est intéressant, t'as tout à fait raison, et je te trouve très courageux d'avoir écrit la chronique que tu as écrite ce matin. Je veux juste encourager tout le monde à aller entendre, quel drôle de lapsus, à aller entendre une entrevue que j'ai faite hier avec Paul Laurier, qui est un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec et qui réagissait à cette idée lancée en fin de semaine par les militants, les partisans du parti de Valérie Plante, de désarmer la police, et qui disait c'est non seulement irréaliste, mais c'est complètement farfelu et ridicule, quand on sait que dans les rues du Québec, maintenant, il y a des jeunes de 14 et 15 ans qui se promènent avec des armes, et que la frontière est très poreuse avec les États-Unis, et qu'il y a plein d'armes illégales qui circulent. Et que c'est quoi cette idée-là de désarmer la police au moment où on en a le plus besoin? Donc, parfois, la gauche arrive avec des idées d'un angélisme, d'une espèce de vision de l'être humain comme étant vraiment des petits anges qui flottent, une vision très câlinours de la société.
Oui, et en fait, Sophie, c'est un cas particulier d'un phénomène plus général qui est que si tu prends une proposition comme celle-là, et que tu faisais un vrai sondage scientifique pour la tester, ce genre d'idée folichonne n'aurait pas 5% d'appui. Mais, si tu veux, l'écosystème médiatique donne à ces niaiseries un écho, ça décuple, et il y a véritablement un débat public qui s'engage, et fréquemment, il arrive que les institutions plient et adoptent en fait des politiques qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que souhaite la majorité. Mais évidemment, cette majorité, elle n'est jamais invitée à Tout le monde en parle et elle n'écrit jamais des papiers d'opinion dans Le Devoir.
Très, très, très bon point. Alors, écoute, une excellente chronique ce matin. Je veux revenir absolument, Joseph, sur ta chronique de samedi, qui parlait des bonnes raisons, donc, pour le cégep francophone au Québec. Peut-être avant même de rentrer dans tous les détails de cette discussion et des 10 arguments, des 10 raisons, est-ce que tu peux résumer ta pensée de façon claire pour quelqu'un qui peut-être se dit ben pourquoi on parle du cégep en français, en quoi c'est un enjeu, quelqu'un qui par exemple serait très réticent ou très cynique par rapport à ce dossier-là, explique-nous pourquoi c'est important, pourquoi on en parle encore aujourd'hui.
D'abord, on en parle encore aujourd'hui parce que au rythme où vont les choses, il y aura bientôt, oui, plus d'étudiants au cégep anglophone que francophone à Montréal. Au rythme où vont les choses, il y aura bientôt plus d'étudiants collégiaux dans les cégeps anglophones du Montréal métropolitain que francophones. L'idée souvent entendue est « mais c'est normal, ils veulent apprendre l'anglais ». Faux. Les étudiants francophones qui vont dans les cégeps anglophones parle déjà l'anglais. Ce qu'on sait, ils nous le disent, on a les chiffres, c'est qu'ils aspirent ensuite à travailler et vivre en anglais. Autrement dit, le cégep anglophone est un puissant vecteur d'anglicisation, donc, si tu veux, d'assimilation. Mm-hmm. Il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou contre l'apprentissage de l'anglais, mais bien entendu que oui, sauf qu'il y a eu 11 ans d'enseignement primaire et secondaire d'anglais à cet égard. Et évidemment, quand on sait que le cégep puis l'université sont, si tu veux, les formateurs, les dessinateurs du marché du travail futur, eh bien, écoute, une langue comme le français qui se marginalise dans les études supérieures et dans les emplois les plus lucratifs est une langue qui se folklorise, qui se marginalise, qui disparaît. D'ailleurs, en passant, est-ce que tu connais beaucoup de sociétés, toi, où la langue de la minorité est, écoute, c'est pas compliqué, Sophie, le plus gros cégep du Québec est anglophone. C'est-tu pas fou, Red Dawson? Le plus gros cégep du Québec est anglophone. Et pas plus tard qu'hier, notre plus éminent chercheur dans le domaine, Frédéric Lacroix, qui a écrit le livre « Pourquoi la loi 101 est un échec », titre douloureux mais ô combien vrai, me faisait parvenir un courriel dans lequel il me disait que, juste par rapport à l'an dernier, cette année, les inscriptions à Dawson augmentent de 16% par rapport à l'an dernier. Oui, 16%. Et les applications. Et le nombre d'applications pour le programme de sciences augmente de 27%. Le nombre de demandes pour y rentrer est en hausse de 27% en sciences par rapport à l'an dernier. C'est une véritable ruée vers le cégep anglophone qui fait qu'à vitesse grand V, les francophones sont en train de devenir minoritaires dans la région métropolitaine. Et désolé pour les gens hors de la région métropolitaine, mais l'avenir du Québec, c'est dans la métropole qui se joue.
Oui. Et, bon, tu utilises plusieurs arguments dans ton texte. Un de mes préférés, c'est de dire, ben, si on veut vraiment, en effet, que nos jeunes parlent mieux anglais, ben, offrons-leur des meilleurs cours d'anglais au primaire et au secondaire.
Et le plus invraisemblable, oui, c'est que les cégeps francophones, les universités francophones, constatant l'hémorragie, que font-elles? Oh, mon Dieu! Ben, on va se mettre à offrir, nous aussi, l'anglais. Donc, autrement dit, au lieu de lutter, elles aggravent elles-mêmes le problème. If you can't beat them, join them.
Mais
et,
oui,
et
c'est
en
ça.
Fait, tu réalises que l'idée d'assujettir le cégep à la loi 101, qui, il y a 10 ans, 20 ans, était une idée d'hurluberlu, est en train aujourd'hui de recueillir de plus en plus d'appui parce qu'on réalise que la loi 101 nous a donné un faux sentiment de sécurité.
Voilà.
Le tapis est en train de nous glisser sous les pieds et Sophie, démographiquement, le point de non-retour sera très vite atteint. La prochaine étape, c'est l'acadianisation du Québec.
Ben, écoute, on met ta chronique en complément avec ma chronique d'hier, où je parlais de cette façon insidieuse dont l'anglais est vraiment en train de contaminer et d'empoisonner le vocabulaire de tout le monde. Et je veux signaler cette série de publicités de la Fondation pour la langue française où ils nous donnent des exemples. Tu sais, en 2010, on disait j'ai perdu mes clés, mettons, et puis maintenant on dit j'ai lost mes clés. Mais en 2040, on va dire I lost my keys. Je regarde, je veux dire, il y a une jeune chef que j'aime beaucoup, Geneviève Evrel, elle a Miss Sushi, elle a son magazine, puis je salue Geneviève, je l'aime beaucoup, mais je regarde la couverture de son nouveau magazine, des recettes full faciles. C'est quoi ça, des recettes full faciles?
Ah non, écoute Sophie, si tu regardes un petit peu des vieilles photos du Montréal des années 50-60, si tu regardes les débats qui se faisaient à ce moment-là, si tu regardes l'omniprésence de l'anglais à l'époque, on a lutté contre cela pendant 40 ans. Et donc aujourd'hui, la situation donne le sentiment d'un immense recul à ce qu'on avait jadis connu. Je me dis, tout ça pour ça? Et c'est fou. As-tu remarqué? Regarde dans nos médias, regarde les articles écrits par de jeunes journalistes de 25 ans. As-tu vu le retour de l'expression « la belle province » qui était sur nos plaques d'immatriculation avant le « je me souviens » arrivé en 1976? Nous vivons une immense régression linguistique, culturelle et politique qui exige un réveil urgent de ceux qui croient encore au Québec français.
Écoute, je pense que je vais prendre ta dernière phrase et je vais la faire jouer en boucle pour réveiller tout le monde et je te quitterai simplement en disant oui, j'ai remarqué, mais ce qui me frappe le plus chez les chroniqueurs, chroniqueuses de la vingtaine ou de la trentaine, c'est l'omniprésence des mots anglais, mon boyfriend, mon BFF, c'est rempli d'expressions anglaises ou de français écrits tout croche, c'est absolument désolant. Je connais une couple de personnes qui sont dans leur tombe en ce moment et qui doivent faire des tours complets de Camille Lorrain à René Lévesque en passant par Félix Leclerc. Mais bon, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup, Joseph. J'encourage tout le monde à aller lire tes deux chroniques. Merci, Joseph.
Au revoir, bonne semaine.